On continue la série « Oui, je le veux ». Et aujourd'hui, on veut regarder à l'aspect de comment notre foi à nous autres, comment notre décision à nous de suivre Christ a un impact et peut aider nos frères et sœurs dans la foi. Et quand on regarde à ce qui prend place à chaque semaine ici, on peut voir que c'est vrai. Les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait, chacun d'entre nous autres, dans notre vie avec Christ, ont réellement un impact sur ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, le texte qu'on va voir, c'est dans Josué 24. Et je vais vous lire juste un verset, parce qu'on va lire les versets 14 à 28. Mon frère va venir lire ça dans pas long, mais je vais vous lire le verset 31, parce qu'il résume ici à quel point justement Josué est un exemple de ça. Comment Josué, la décision qu'il a prise de vivre pleinement pour Christ, de dévouer sa vie à vivre pour Dieu, a eu un impact sur une génération entière. Regardez au verset 31 de Josué 24. Il est dit, « Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. » Imaginez la décision d'un homme de suivre Dieu de toutes ses tripes, de vivre pour lui à 100%, à fond, a eu un impact sur une génération entière. Réalisez-vous que vos décisions que vous prenez pour Dieu ont un impact autour de vous autres. Ce matin, on veut réfléchir à ça, la phrase clé qu'on va garder en tête aujourd'hui et à laquelle on va répondre à travers chacun des points, c'est tout simplement « Ma décision de suivre Christ peut, ou plutôt doit, aider les autres dans leur foi. » Ma décision de suivre Christ doit aider les autres dans leur foi. Donc, je vais prier. Ensuite, on va écouter la lecture de la parole de Dieu et on va rentrer directement dans le message. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, on te remercie pour ta parole qui est vivante, efficace, puissante, Seigneur, que tu nous as laissée. Ce matin, on te prie que tu puisses parler à chacun de nos cœurs à travers cette parole-là, qu'on la reçoive comme ce qu'elle est vraiment, comme étant la parole de Dieu, qu'on soit attentif à ce que tu veux faire dans notre cœur. Je te prie que ce matin, on puisse tous ressortir d'ici avec un cœur qui désire réellement vivre des vies qui comptent. Vivre des vies qui vont avoir un réel impact sur les gens qui nous entourent, nos familles, nos amis, nos voisins. Seigneur, fais qu'on puisse vivre selon ce que tu nous appelles à vivre dans ta parole. Qu'on ne puisse pas juste s'asseoir et attendre que les choses passent, même si en ce moment la situation nous pousse des fois dans cette mentalité-là, mais qu'on puisse passer à l'action et être la lumière du monde comme tu nous appelles à l'être. On te remercie, Père, de ce que tu vas faire en chacun de nous ce matin, pour ta gloire, en Jésus-Christ. Amen.
Passage biblique de ce matin. Le passage biblique de ce matin est tiré de Josué au chapitre 24, les versets 14 à 28, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Josué au chapitre 24 et au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple. Il lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage.
Amen. C'est la parole de notre Dieu. Ce matin, on dit que le point central, c'est que ma décision de suivre Christ doit aider les autres dans leur foi. Et les points qu'on va développer ensemble vont tout simplement répondre à la question « comment ?» Comment est-ce que ma décision de suivre Christ, comment est-ce que ta décision de suivre Christ peut et doit aider quelqu'un d'autre dans la foi ? Trois mots super faciles à retenir. Premièrement, inspiration. Deuxièmement, information. Troisièmement, implication. Premièrement, inspiration, dans le sens qu'on va voir à travers la vie de Josué ici, à quel point quelqu'un qui décide de vivre une vie pleinement pour Dieu, quelqu'un qui décide de se donner à 100% pour l'Éternel, est une inspiration, est un modèle de vie et de foi pour tous ceux qui le regardent vivre autour. Quand tu regardes le texte ici, le verset 31 qu'on a lu tantôt, nous démontre que le peuple qui a suivi Josué, le peuple qui l'a connu et qui a vécu pendant sa vie, sont restés fidèles à l'Éternel pendant toute leur vie. Une génération complète a été impactée par un modèle de vie. Donc ton « oui, je le veux », on est dans cette série-là, « oui, je le veux », et ton « oui, je le veux » envers Dieu devient toujours visible aux yeux de ceux qui t'entourent. Autrement dit, ça se retient facilement, ta foi se voit. Tout le temps, lorsque tu crois en Dieu, ça devient visible à travers toute ta vie. Donc la première chose qu'on veut voir dans le texte, c'est combien Josué, qui s'adresse au peuple, était un modèle lui-même. Parce que quand on lit le texte qu'on vient de lire comme ça, il faut réaliser que c'est le chapitre 24, c'est le dernier chapitre du livre de Josué. Josué est tout près de la mort. Les versets suivants nous disent que Josué est mort tout de suite après, à 110 ans. Donc Josué est là et il convoque le peuple. Après avoir vécu avec Dieu pendant toute sa vie, il convoque le peuple d'Israël avant de mourir. Et si vous réfléchissez pendant deux secondes, vous savez que si vous vous adressez à une personne pour la dernière fois de votre vie, si vous savez que c'est les dernières paroles de votre vie que vous prononcez, vous allez peser vos mots. Vous allez vous assurer que ce qui sort de votre bouche a de la valeur. Vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent des dernières paroles que vous prononcez. Donc, c'est un moment solennel pour Josué et le peuple d'Israël. Ils sont là devant lui, ils savent que Josué est près de la mort et Josué s'adresse pour une dernière fois à son peuple. Et il leur dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas qui vous dit la même chose, ça n'aura pas le même impact. Mais eux, ce n'était pas n'importe qui, c'était Josué. Et si on prend le temps de réfléchir deux minutes à qui est Josué, on va comprendre la profondeur des paroles qui sont dites ici. Je vous ai mis sur l'écran un petit peu. Comment est-ce que Josué, à travers sa vie, était lui-même un modèle de foi, un modèle à suivre pour le reste du peuple? Ici, Josué est en train d'appeler sa famille élargie, parce que c'est toutes les tribus d'Israël, c'est toutes des gens qui descendent de Jacob et tout ça. C'est un moment lourd en émotion. Et voici celui qui s'adresse à eux, c'est celui qui restait dans la prière plus longtemps que Moïse. C'est un exemple de dévotion. Josué, alors que Moïse, lui, passait du temps avec l'Éternel, quand Moïse retournait vers le peuple, Josué restait encore plus longtemps dans la présence de Dieu à prier. C'est celui aussi qui dirigeait l'armée d'Israël pour remporter les guerres. Vous vous rappelez tous de cet événement-là où est-ce que Moïse était assis sur une roche puis contenait son bras d'un côté et de l'autre dans la vallée, Aaron d'un côté, Hur de l'autre, et Josué était dans la vallée en train de combattre la guerre. Et Josué a remporté la guerre pour son peuple. Il était prêt à laisser sa vie directement là pour la gloire de son Dieu, un modèle de courage. C'est un des deux seuls espions quand le peuple d'Israël, quand Moïse a envoyé les 12 espions pour aller espier la ville de Canaan pour savoir de quoi avait l'air le pays promis, et que sur 12, il y en a 10 qui ont dit « On n'y va pas, c'est des géants, ils sont trop grands ». L'Éternel a promis qu'il allait vous donner la victoire, mais eux, ils disent non, 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 c'est impossible. Ils sont trop grands puis ils sont trop nombreux. Puis Josué puis Caleb étaient les deux seuls qui ont dit non. Dieu nous a dit qu'on allait remporter la victoire, on va foncer. Josué était tout un modèle de foi. Malheureusement, c'est celui qui a dû tourner pendant 40 ans de plus dans le désert à cause des 10 autres espions qui ont dit c'est pas une bonne idée. Il a dû tourner pendant 40 ans en sachant très bien que l'Éternel leur aurait donné la victoire sur le peuple. C'est un exemple de fidélité, d'humilité et de persévérance. C'est celui qui a dirigé la prise de Jéricho par une stratégie complètement folle. Dieu a dit, vous allez tourner autour des murailles, vous allez chanter un petit peu, puis les murailles vont tomber. Mais c'est celui qui a dirigé le peuple à prendre possession de la ville de Jéricho. C'est un exemple de leadership et de foi encore, parce que ce n'était pas une stratégie qui faisait vraiment du sens, logiquement parlant. C'est celui qui, à plus de 80 ans, a fait entrer le peuple de Dieu dans le pays promis puis qui a divisé les terres pour chaque personne du peuple. C'est un modèle de ténacité puis de durabilité dans la foi. Josué, c'est celui qui a fait la lecture complète de la loi de Moïse, aussi vous avez les références sur l'écran. Il a fait la lecture complète de la loi de Moïse à tout le peuple. Le peuple s'est assis, Josué a lu complètement la loi de l'Éternel. Un modèle de dépendance à Dieu, de fidélité et de soumission à sa volonté. Josué était tout un modèle de foi, un modèle vraiment inspirant pour le reste du peuple. Et quand Josué prononce ces paroles, quand Josué s'adresse au peuple et dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Quand il les met au pied du mur et qu'il leur dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. » Et qu'il leur dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça a du poids parce que toute sa vie témoigne que c'est ce qu'il a fait. Et je veux vous poser la question et ça m'amène à réfléchir en me disant en réalité, les choix qu'on prend et la décision qu'on prend, la manière qu'on décide de vivre notre vie peut soit vider complètement nos paroles de sens ou soit charger nos paroles de signification et de puissance. Combien de témoignages ont été gâchés par une vie qui n'était pas en accord avec ce qu'on disait croire ou vivre? Combien de fois on peut dire « Ah, mais Jésus, c'est mon rocher », surtout en cette période de pandémie, où est-ce qu'on est tellement stressé, qu'il y a tellement d'inquiétudes, d'inconnus et tout ça, où est-ce que les chrétiens disent « Oui, mais Jésus, c'est notre rocher, c'est le rocher sur lequel on se tient, Jésus, c'est lui, il est suffisant pour moi », puis on vit notre vie comme si Christ n'existait pas. La crise arrive, puis Jésus, on dirait qu'il prend le bord un petit peu. La manière dont on vit notre vie va soit charger nos paroles de sens ou les vider complètement, et c'est une réalité. Combien d'époux, d'épouses ont pu dire « Je vois mon mari qui dit à l'église qu'il aime Jésus, puis quand je rentre à la maison, sa vie dit quelque chose d'autre. » Est-ce que vous pouvez regarder en ce moment à votre époux et à votre épouse, et là, ne faites pas des gros yeux ou des coups de coude, OK? Mais est-ce que vous pouvez regarder à votre époux et à votre épouse et sincèrement dire, j'ai dû poser la question à ma femme cette semaine avant de venir ici et de le dire. Est-ce que vous pouvez regarder à votre époux et votre épouse et dire, cette personne-là, sa décision à elle, de suivre Christ est une de mes plus grandes inspirations, moi, à suivre Christ aussi. Est-ce que vos enfants, est-ce que nos enfants peuvent regarder leurs parents en disant, quand je regarde à mon père ou à ma mère, je peux vraiment dire que la décision de mes parents de vivre pour Jésus-Christ fait une différence dans notre vie de famille. Il me donne le goût de vivre pour lui. Mon père, il ne fait pas juste avoir l'air spirituel quand il prêche à l'église, mais à la maison aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont pouvoir dire, j'ai souvent vu mon père avec un marteau, avec un bâton de golf, ou avec une télécommande. Mais je ne l'ai pas souvent vu ouvrir sa Bible à la maison. Pourtant, il nous dit que c'est la parole de Dieu et qu'on doit vivre selon ce qu'elle dit. Comprenez-vous, la manière dont on va choisir de vivre notre vie va soit vider nos paroles de sens ou charger nos paroles de sens. Et ici, dans le cas de Josué, il s'adresse au peuple et c'est clair qu'il a vécu sa vie pour la gloire de Dieu. Et quand il dit « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel », ça a du sens, ça a du poids. Notre manière de vivre. Donc, la question pour nous autres, c'est est-ce que notre manière de vivre en ce moment témoigne ou appuie ou donne de la force à notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, dans notre voisinage, dans nos familles et tout ça? Combien est-ce que c'est inspirant lorsqu'on assiste aux funérailles d'une personne qui meurt dans la foi? Lorsque tu assistes aux funérailles d'une personne et tu es assis là et c'est un peu triste parce que la personne quitte ce monde et tu passeras plus de temps avec cette personne-là ici-bas. Mais en même temps, tu regardes le témoignage qui est donné de la vie de cette personne-là et tu peux dire, « Wow, il a gardé la foi. Il est resté fidèle à Dieu jusqu'au bout. Quel exemple! » Je regarde la plaque qui est dans le fond de l'église ici. Et je n'ai pas connu personnellement cet homme-là. Mais il y en a plusieurs parmi vous autres qui l'avaient connu. Cet homme-là, Élisébeau, qui a implanté l'église ici à Longueuil. Regardez encore aujourd'hui le fruit du labeur qui a été fait il y a tellement d'années. Quand vous regardez la vie d'une personne comme ça, certainement la plaque qui est au fond de l'église témoigne et rend honneur à sa foi. Mais ceux qui l'ont connu personnellement peuvent dire probablement, « Wow, quel exemple, quelle inspiration d'une vie vécue pour la gloire de Dieu. » Donc le premier point, c'est tout simple, inspiration, un modèle de vie, la manière dont on va choisir de vivre notre vie peut avoir un impact vraiment grand sur la foi de ceux qui nous regardent autour de nous autres. Et dans le Nouveau Testament, on nous rappelle la même chose. On nous dit et nous enseigne la même chose dans Hébreux 13 au verset 7. On nous dit qu'on doit regarder à ceux qui ont marché dans la foi fidèlement et imiter leur foi. Dans Hébreux 13, 7, et sur l'écran ici, Il nous est dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Surtout en ce moment. Écoutez, on peut témoigner les églises. On peut dire, on veut réclamer nos droits de se rassembler, puis c'est bien et tout ça. On peut parler de Jésus un peu partout. On peut mettre des vidéos sur Internet d'églises qui chantent, qui louent, qui adorent, qui prêchent la parole de Dieu. Mais ce qui va vraiment avoir un impact, c'est lorsqu'on va vivre dans nos communautés en accord avec ce qu'on prêche. Surtout en période de pandémie. Où est-ce que les gens sont... Il y a un niveau de stress. Écoutez, hier encore, je recevais des messages de plein de personnes avec un niveau de stress, d'angoisse avec les événements qui arrivent. Et qu'est-ce que les chrétiens, qu'est-ce que les croyants, ceux qui ont Jésus comme rocher, peuvent avoir comme impact par la manière qu'ils vont vivre leur vie et leur assurance en Christ? Est-ce que notre vie en ce moment témoigne que Jésus est suffisant pour nous? C'est une bonne question à se poser. Considérez ceux qui ont marché avant nous. Imitons leur foi. Une des plus grandes bénédictions dans ma vie, c'est de lire des biographies. Lire des biographies d'hommes et de femmes qui ont vécu dans le passé, qui sont restés fidèles à Dieu, qui ont vécu leur vie en se donnant complètement pour la gloire de l'Éternel. C'est tellement inspirant de se dire, c'est possible de ne pas vivre pour toutes les choses qui sont appelées à disparaître, mais pour vivre pour l'Éternel. Quel témoignage envers le monde. Mais Josué ne s'arrête pas là. Oui, Josué vient avec son témoignage de vie. Ça a du sens, qu'est-ce qu'il dit, à cause de la vie qu'il a vécue. Puis quand il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il est en train de se donner lui-même un exemple en disant, écoutez, c'est la bonne décision à faire de suivre Dieu, mais voici moi-même dans ma vie, je m'engage à le faire, c'est ce que je décide de faire avec ma famille. Et il y a un témoignage qui est donné de cette manière, mais Josué sait que son témoignage de vie n'est pas suffisant. Il y a aussi un message à annoncer. Puis Josué va continuer en donnant de l'information claire au peuple qui est devant lui. Il ne va pas juste leur dire « imitez-moi », mais il va dire « écoutez ceci ». Donc c'est notre deuxième point, tout simplement, information, un message à considérer. Quand on regarde les versets 14 à 22, on réalise que notre « oui, je le veux » à Dieu implique forcément de dire « oui, je le veux » à la mission que Jésus nous a donnée, d'ouvrir la bouche puis de témoigner de qui il est. Donc comment est-ce que ma décision de suivre Christ peut aider l'autre dans sa foi? En partageant l'Évangile constamment dans ma vie. C'est simple, hein? Ici dans le texte, Josué va plus loin que juste leur donner l'exemple. Il leur met un choix devant eux. Il est vraiment très clair. Au verset 14, il dit « Craignez l'Éternel » et servez-le avec intégrité et fidélité. Donc, c'est soit tu le sers avec intégrité et fidélité ou tu ne le sers pas du tout. C'est une parenthèse. Il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué est en train de faire quelque chose de très simple ici. Ce qu'il est en train de dire au peuple, c'est qu'en réalité, il y a deux choix. Il n'y a pas une dizaine de choix. Tu sais, quand il dit « choisissez quel dieu vous voulez servir, soit ces dieux-là, soit ces dieux-là, soit ces dieux-là », il n'est pas en train de dire « choisissez, il y en a plein, celui que vous avez choisi, ben, faites votre vie avec ça ». Il est en train de dire au peuple, il est en train de dire « il y a Dieu ». Il commence avec ça, « craignez et servez Dieu fidèlement avec intégrité ». Il y a Dieu, puis il y a toutes les autres. Si vous ne croyez pas que l'Éternel est bon à servir, choisissez n'importe lequel des autres dieux qui vous ont été présentés dans les autres pays et tout ça. Ce qu'il est en train de dire en réalité, c'est que tu as juste deux choix. C'est soit que tu vis pleinement pour Dieu, soit que tu gâches ta vie. Soit que tu vis pleinement pour Dieu, soit que tu vis dans le mensonge. Parce que tous ces autres dieux-là auxquels il fait référence, c'est des idoles. C'est des idoles qui sont muets, qui ont été inventés par les hommes et qui ne peuvent rien faire pour le peuple. C'est soit Dieu, ou c'est soit tu sers le néant et tu sers le vent. Donc, il met clairement le choix devant eux. C'est infini le nombre de faux dieux qu'il y a dans le monde dans lequel on vit. Tu peux en nommer une tonne. Tu peux avoir le dieu du succès humain, le dieu des richesses, même le dieu de la famille et des amis. Un faux dieu, c'est une idole, c'est toutes les choses pour lesquelles tu vas décider de dédier ta vie. Dis, moi, c'est pour ça que je vis. Moi, c'est ça qui va m'apporter la satisfaction. C'est ça en quoi tu vas chercher ton plus grand bonheur. Si ce n'est pas Dieu, c'est une idole et c'est un faux dieu. Et ça ne vaut pas la peine. Josué est clair. Écoutez, je sais que ce n'est pas populaire comme message parce qu'aujourd'hui, on prêche que chacun a sa vérité, que la vérité est relative. Mais la Bible m'enseigne que la vérité absolue, ça existe. Et que c'est qu'il y a un seul vrai Dieu. Le Dieu trinitaire qu'on adore ici à l'Église, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soit tu vis pour lui ou soit tu vis pour un faux Dieu. Et la fin est tragique. Jésus a enseigné la même chose dans le Nouveau Testament. Jean 14, 6, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il continue en disant, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Jésus est très clair, il ne rend pas ça compliqué. Il dit, il y a juste une manière d'avoir la vie éternelle. Il y a juste une manière de connaître Dieu et de venir à Dieu. Et c'est par moi, c'est par Christ. Soit tu marches dans la vérité de Christ, soit tu vis dans le mensonge. Soit tu choisis de vivre pour Christ, ou soit tu vis pour le néant. La Bible enseigne vraiment très clairement. Ce n'est pas quelque chose de difficile à trouver dans l'Écriture, honnêtement. Et chacun d'entre nous autres, on doit réaliser. Et on doit, à un moment donné, prendre une décision quand on est confronté à cette déclaration-là. Chacun d'entre nous autres, on pourrait être de ceux qui sont là parmi le peuple et qui entendent cette question-là. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Il y a peut-être des gens qui sont ici dans la salle en ce moment qui ne connaissent pas Christ et qui n'ont jamais été confrontés à une décision comme celle-là. Peut-être dans une des salles, ici à l'église ou sur Internet, que vous nous regardez en ce moment ou que vous réécoutez la vidéo qui est enregistrée. Mais il y a un moment dans ta vie où tu dois prendre une décision face à ces choix-là qui sont présentés. Est-ce que tu vas vivre pour Christ? Dieu le Père a envoyé son Fils unique pour payer à la croix, pour prendre sur lui la condamnation qui nous revient à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion face à lui. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour prendre sur lui la condamnation qui nous revenait à nous, pour nous donner la vie qu'on ne méritait pas et nous donner sa justice. Qu'est-ce que tu vas faire avec un message comme celui-là? Si tu choisis de mettre ta foi en Christ aujourd'hui et de vivre pour lui, tu vas être sauvé. Et Jésus va plus loin que ça, parce qu'il y a un aspect en quelque part du message qui est vraiment positif. Choisis de vivre pour l'Éternel. Choisis de vivre pour lui. Et le peuple répond en disant, oui, on veut servir Dieu. Oui, on veut le servir. Et là, c'est merveilleux. Tu fais la lecture du texte et tu dis, wow, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir. Et le peuple répond en disant, oui, nous autres, on va vivre pour Dieu, on va vivre pour l'Éternel. La plupart des prédicateurs ou des évangélistes diraient, yes, j'ai réussi, je leur ai fait prendre la bonne décision. On est correct maintenant. Mais Josué est très terre à terre et ce n'est pas ça qu'il fait. Le peuple dit, oui, on veut vivre pour l'Éternel. Voici tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sauvés en Égypte. Il nous a amenés jusqu'ici dans le pays promis. C'est notre Dieu, c'est lui qu'on veut servir. Mais regardez avec moi au verset 19 et 20. La réponse de Josué, c'est, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Wow! Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Écoute, tu regardes ça et tu dis, Josué, ce n'est pas le meilleur évangéliste que la terre a connu. Ils ont dit, oui, Josué, pourquoi tu viens casser leur fun? Pourquoi tu viens briser ça? Mais Josué est très terre à terre. Il ne veut pas juste se réjouir d'une décision, mais il veut être sûr qu'ils comprennent la décision qu'ils sont en train de prendre. Josué est en train de dire, ça va être dur. Même plus que ça, Josué est en train de dire, ça va être impossible. Vous ne serez pas capable de servir l'Éternel. Et ça peut être choquant de lire un texte comme celui-là. Mais quand tu réalises que ce n'est pas la fin, ça peut réjouir ton cœur. Parce qu'ici, on peut voir l'Évangile dans le livre de Josué. Josué avait raison. Clairement, on est incapable. Lorsque tu reconnais le moindrement que tu es pécheur, tu sais que c'est vrai. Dieu est saint. Le péché ne peut pas entrer dans sa présence. Le pécheur ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et vivre. Dieu est jaloux. Pas comme nous autres, on est jaloux en disant « je ne veux pas que tu ailles voir ailleurs », mais parce que lui, il sait qu'il est lui-même la source de toute bénédiction et de toute satisfaction qui est possible d'avoir. S'il y avait quelque chose de meilleur que Dieu qui pourrait t'offrir la satisfaction, cette chose-là serait supérieure à Dieu et Dieu en aurait besoin pour être heureux. Mais si Dieu est lui-même la plus grande source de satisfaction, il sait que si tu vas nulle part ailleurs, si tu vas n'importe où ailleurs, tu ne trouveras pas cette satisfaction-là. Dieu est jaloux de dire « c'est vers moi que vous devez venir ». Mais dans notre péché, on ne peut pas s'approcher de Dieu et vivre. Et c'est l'Évangile dans le livre de Josué. Tu n'es pas capable, tu ne seras pas capable. Chacun d'entre nous autres, on peut dire, oui, encore aujourd'hui, je veux renouveler mes vœux et dire, oui, je le veux, Seigneur, je vais vivre pour toi. Mais Josué nous ramène les deux pieds sur terre en disant, vous ne serez pas capable. Mais gloire à Dieu, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus l'a fait pour nous. Gloire à Dieu, parce que Jésus a vécu la vie parfaite qu'on n'était pas capable de vivre pour nous donner la vie éternelle qu'on n'était pas capable d'acquérir. Jésus-Christ. Et au-delà de ça, Jésus nous a donné son Saint-Esprit pour vivre en nous, pour nous rendre capables de marcher dans les voies de Dieu et d'être en relation avec lui jusqu'à la fin de nos jours. Christ l'a fait à notre place. Pourquoi c'est si important de se rappeler de ça? Parce que l'Évangile n'est pas juste un message qui est pour les non-croyants. L'Évangile, ce n'est pas juste la porte d'entrée dans la vie chrétienne. L'Évangile, c'est la vie chrétienne. On ne doit pas juste entendre l'Évangile puis décider de vivre pour Jésus puis après continuer par nos propres forces. Chaque jour de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, on doit réaliser que sans Christ, on ne peut rien faire, Jean 15, 5. Et Christ nous envoie son esprit qui nous rend capables de vivre pour lui. Non, c'est vrai, on ne sera pas capable. On ne sera pas capable. Mais à chaque jour de notre vie, on doit se rappeler l'Évangile. Chaque fois qu'on pêche, chaque fois qu'on a de la difficulté dans cette saison-là, où est-ce que c'est si difficile encore de s'automotiver peut-être, puis de se dire, mais c'est quoi qui va arriver avec notre monde? Ça va tellement mal et on a tendance à s'isoler chacun dans notre coin. Mais si on était appelé à être actif et à dire, non, Christ le fait à travers moi. Christ le fait pour moi et son esprit me rend capable de vivre en relation avec mon Dieu et selon son cœur. Donc oui, on ne sera pas capable, mais Christ le fait. Ça devrait réjouir notre cœur. Et ça devrait être le message qu'on se rappelle les uns aux autres. En ce moment, frères et sœurs, avant de passer au dernier point, est-ce que les conversations qu'on a les uns avec les autres sont plus centrées sur les décisions gouvernementales, sur la direction que prend le système de santé en ce moment? Je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes réflexions à avoir. Je ne dis pas que ce sont des bonnes conversations à avoir. Mais est-ce que la majeure partie de nos conversations sont remplies avec ce qui se passe dans notre monde ou est-ce que notre bouche est remplie avec l'Évangile? Parce que c'est ça qui va vraiment nous donner l'espérance. C'est ça qui va vraiment remplir notre cœur de joie et réaliser que ce n'est pas la fin. Le monde dans lequel on vit actuellement, ce n'est pas la fin. Vous savez que les choses qu'on vit en ce moment sont réelles, mais ce n'est pas la réalité ultime. Il y a quelque chose de plus grand que ça qui se passe. La vie éternelle avec Dieu, c'est la réalité ultime. À la fin, quand on marche avec Christ, on est avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas la fin ici-bas. Est-ce que notre bouche témoigne de ça tellement souvent, de ramener le regard de nos frères et sœurs vers Christ constamment et notre propre cœur? Comment est-ce que ma décision de suivre Christ peut aider l'autre dans sa foi? En ayant l'Évangile dans ma bouche constamment, en vivant une vie qui est justement un modèle pour les autres de comment Christ est suffisant, comment Christ est vraiment notre trésor et comment il est notre rocher. Mais ça ne finit pas là, encore une fois. Tu n'es pas seul. Le message qui est donné ici par Josué dans le texte s'adresse à une foule. Si vous regardez le langage qui est utilisé, il dit souvent, Josué dit, et le peuple répondit. Il ne s'adresse pas à un individu. Josué n'est pas juste en train de parler à son fils ou à son cousin de prendre une décision et tout ça. Il s'adresse au peuple en entier. Il s'adresse à une communauté en disant, qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Autrement dit, la série s'appelle « Oui, je le veux », mais ce matin, la dernière partie devrait peut-être être « Oui, nous le voulons ». Parce que c'est une décision communautaire. C'est chacun d'entre nous autres, ensemble, en tant qu'Église de Christ, qui doit prendre cette décision-là de dire, nous serons l'Église de Dieu, nous suivrons l'Éternel ensemble, nous serons ceux qui représentent Christ sur la terre et dans notre communauté. Donc, le dernier point est très simple, implication, un mouvement d'unité. Dans les versets 23-28, on voit que Josué amène le peuple à plus que juste prendre une décision, à plus que juste considérer son modèle de vie. Mais une fois qu'ils ont pris une décision, Josué les accompagne dans comment mettre en pratique cette décision-là. Regardez avec moi dans le texte ici au verset 23. Après qu'eux aient pris la décision, après qu'il leur ait dit, « OK, mais ça va être dur, vous ne serez pas capable de servir l'Éternel par vous-même. » Il continue en disant, « Parfait, vous décidez, vous êtes témoin contre vous-même. » Au verset 23, il dit, « Dans ce cas-là, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple. Il donna des lois et des ordonnances à Sichem. Ici, on croit que c'est la loi de Moïse qui a redonné au peuple encore, qui a rappelé à leur cœur. Ensuite, de ça, au verset 26-27, il y a quelque chose de très intéressant qui prend place. Il nous dit que Josué a écrit ces choses-là dans le livre de la loi de Dieu. Et il a pris une grande pierre qu'il dressa sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué a dit à tout le peuple, écoutez ça, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Qu'est-ce qui est en train de prendre place si c'est un mouvement communautaire? Josué, il sait que sa fin va se terminer ici. Puis il ne fait pas juste leur dire, vous avez bien pris une décision, puis ça s'arrête là. Il dit, voici, il y a une suite des choses. Premièrement, vous devez tourner votre cœur vers l'Éternel. Ce n'est pas juste une décision de la tête, mais vous devez avoir vos affections tournées vers Dieu. Vous devez l'aimer. Mon verset préféré dans Josué, certainement, est au chapitre juste avant, au chapitre 11, le verset 23, où est-ce qu'il dit, « Veillez attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel. » Et ça, c'est puissant parce qu'il y a un sens Il y a un sens intime, il y a un sens personnel de chacun d'entre nous autres qu'on doit vraiment veiller sur notre âme afin d'aimer l'Éternel. Mais il s'adresse à une communauté. Et en quelque part, il est en train d'enseigner au peuple de dire, vous devez veiller sur vos âmes, chacun les uns avec les autres, afin d'aimer l'Éternel. Et ici, il fait la même chose. Il élève une grande pierre après avoir parlé. Et il dit, il y a un message symbolique ici. Vous savez que les pierres n'ont pas d'oreilles. Il n'est pas en train de dire que la pierre est une personne, mais il dit, cette pierre-là a entendu nos paroles. Puis elle va être témoin pour chacun d'entre nous autres des paroles qu'on a prononcées puis de l'alliance qu'on a fait ensemble, les uns avec les autres et avec Dieu. C'est comme s'il était en train d'enseigner au peuple que n'importe qui dans le peuple à ce moment-là pouvait prendre un frère ou une sœur, puis le prendre par la main puis l'amener avec lui à cette pierre-là puis dire, est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles la décision qu'on a prise de suivre Christ? Est-ce que tu te rappelles la décision qu'on a prise de vivre pour Dieu? Est-ce que tu vis selon cette alliance-là qu'on a faite ensemble à ce moment-là? Est-ce qu'en ce moment dans ta vie, tu vis en accord avec la déclaration de foi? Peut-être pour nous autres, le symbole, c'est le baptême. Lorsqu'on est passé par les eaux du baptême et qu'on a dit, je veux vivre pour Christ toute ma vie, et qu'on peut venir se voir les uns les autres et dire, mon frère, ma soeur, est-ce que tu vis encore selon cette alliance-là que tu as passée avec ton Dieu? C'est un mouvement de communauté qui prend place. Et c'est absolument inséparable. Ton « oui, je le veux » à Dieu, c'est automatiquement un « oui, je le veux » à son Église. Quand Dieu t'a fait naître de nouveau, quand il t'a régénéré, il t'a fait naître dans une famille spirituelle. La Bible nous dit, et c'est une des plus grandes joies du croyant, la Bible nous dit que quand on croit en Christ, quand on est de nouveau, on est l'enfant de Dieu. Dieu, c'est notre Père. Le Saint-Esprit vient en nous et nous fait crier « Abba, Père ». On est vraiment l'enfant de Dieu. Mais ça veut dire que quand on est de nouveau, on est tout de suite joint à une famille spirituelle. Et écoutez ceci, quand tu es un enfant de Dieu, parmi les enfants humains de Dieu, il n'y a aucun enfant unique. On est tous frères et sœurs les uns les autres. Donc, automatiquement, tu es joint à une famille. Ma question ce matin, c'est comment est-ce que ça se passe? On comprend bien que les autres sont nos frères et que les autres sont nos sœurs. Mais ma question ce matin, c'est de quelle manière en ce moment dans ta vie, tu es un frère pour les autres dans ton église? Autour de toi? Comment est-ce que tu es une sœur pour les autres? Comment est-ce que ta décision de suivre Christ a un impact sur la foi de tes frères et sœurs? Plus que jamais, on a besoin dans cette période de crise-là d'être l'Église et de représenter Christ aux yeux du monde. Et je vous encourage, on est isolés plus que jamais. Déjà au Québec, on est une société individualiste, on pense juste à nous. On est souvent encabanés chez nous, faire l'effort. Je ne sais pas si c'est différent pour vous autres, mais beaucoup de gens ne connaissent même pas leurs voisins encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais on n'a pas cette manière automatique d'aller vers les autres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à ça. La foi se vit d'une manière communautaire. Donc, comment est-ce que toi, en ce moment, tu es un frère ou une sœur pour un autre? Comment est-ce que tu vas même mettre ça en pratique cette semaine? Et je veux finir en vous partageant un témoignage de ma propre vie. Les musiciens peuvent s'avancer. Je veux t'inviter à ne pas mépriser la grâce fortifiante d'un coup de téléphone. Très souvent, on pense à nous puis on se dit, oui, mais moi, je suis un frère, je suis votre frère, je suis votre soeur. Pourquoi vous ne m'appelez pas la semaine pour m'encourager? Pourquoi vous ne m'appelez pas pour prier avec moi ou pour encourager ma foi? Mais la question doit être dans l'autre sens. On doit se demander, mais comment est-ce que moi, je peux être un frère ou une soeur pour quelqu'un d'autre? Et alors que tout le monde est isolé en ce moment, je veux vous mettre au défi, en finissant comme ça, je veux vous mettre au défi de juste, en partant d'ici cette semaine, de réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir vous impliquer dans la vie d'une autre personne pour encourager sa foi. La persévérance des saints, c'est une œuvre qui est communautaire. En 2012, j'étais assis dans mon bureau, j'étais pasteur jeunesse à Drummondville, j'étais assis dans mon petit bureau, puis j'étais complètement découragé. J'étais découragé du ministère, j'avais plus le goût d'avancer, j'avais l'impression que tout ce que je faisais servait absolument à rien. J'étais triste, j'étais à côté, les mains, la face sur les mains comme ça dans mon bureau, puis je pleurais, puis j'étais en train de dire à Dieu, ça ne sert à rien, je veux quitter, je vais me trouver un emploi à place ailleurs, puis c'est trop dur, ça ne me tente plus, je ne suis plus capable. Puis à ce moment-là précis, le téléphone a sonné. J'ai décroché le téléphone, et la personne qui était au bout du fil, c'est Monsieur Joyal, Monsieur Victor Joyal. Et c'est un monsieur qui s'assoyait toujours à la même place à l'église, toujours à derrière moi, à droite, on parlait ensemble une fois de temps en temps. Le monsieur était à l'hôpital. Il était dans les dernières semaines, c'est pas les derniers jours de sa vie à ce moment-là. Et c'est lui qui m'appelle. Alors que que moi, étant un des pasteurs de l'Église, j'aurais dû être celui qui l'appelait pour prendre des nouvelles. Lui est en train, sur son lit d'hôpital, de penser à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Ça, c'est un exemple d'humilité. Et il m'appelle et il dit, « Éric, je suis en train de prier pour toi. J'avais juste à cœur de t'appeler et de t'encourager. Je veux juste te dire, ton travail n'est pas en vain dans le Seigneur. » Il m'a dit tout simplement, « Éric, lâche pas. Lâche pas, Éric. » Écoutez, j'ai raccroché le téléphone puis j'étais juste en larmes devant Dieu, reconnaissant que mon Dieu encore entend mes prières et me parler. Mais encore plus de ça, de me dire qu'il y a un frère qui a pris la peine, dans la situation dans laquelle il était, de me téléphoner pour me donner une parole d'encouragement à moi. Je ne sais pas la situation dans laquelle vous vous trouvez, peut-être que vous-même vous dites, mais c'est moi qui devrais recevoir un coup de téléphone. Mettez-vous dans les chaussures de cet homme-là encore, puis dites-vous, comment est-ce que moi je peux être un frère ou une sœur pour l'autre? La vie chrétienne, c'est un projet communautaire. Comment est-ce que cette semaine, vous allez vous impliquer pour faire la différence? Je ne peux pas vous dire avec des mots comment cet appel-là a pu avoir un impact sur ma vie. 8 ans plus tard, je suis encore dans le ministère et j'ai persévéré de juste entendre sa voix comme ça, me dire « Lâche pas, Éric. » Ça a été toute une source d'encouragement pour ma propre vie. Et vous pouvez être de ces personnes-là qui sont une source d'encouragement pour d'autres. Prions ensemble. Mon Dieu, t'es un bon Dieu. T'es un Dieu fidèle. T'es un Dieu fort. T'es un Dieu patient. Et ce matin, mon Dieu, on veut te faire confiance que tu, à travers ta parole, Seigneur, que tu nous parles clairement et que tu nous guides sur la manière dont on doit vivre notre vie. Et tout simplement, ce matin, je veux te demander, fais de nous, Seigneur, l'Église que tu veux qu'on soit. Fais de nous les frères et sœurs ensemble que tu veux qu'on soit. Fais de nous, Seigneur, des flambeaux qui vont vivre sous le regard des gens avec passion pour ta gloire. Fais de nous des gens qui vont prendre la peine, Seigneur, de s'impliquer et d'entrer dans la vie des autres, pour pouvoir être une source d'encouragement et inspirer la foi. Père, que notre décision en tant qu'Église de vivre pour Christ puisse alimenter la foi de ceux qui sont autour de nous. On te remercie, Père, pour ta grâce envers chacun de nous, pour ta parole et pour ton esprit qui nous accompagne, qui nous rend capables de vivre selon ces choses. Dans le nom de Jésus. Amen.